Les colloques du Collège de France.
Et nous allons maintenant terminer ce colloque avec un autre aspect évidemment extrêmement important associé aux embryons humains et à leur modèle, qui est bien entendu l'aspect légal. Et pour nous parler de cet aspect particulier, je suis absolument ravi d'accueillir la professeure Emmanuelle Rial-Sebag du CERPOP, le Centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Emmanuelle Rial-Sebag est juriste, directrice de recherche à l'INSERM en bioéthique et droit de la santé, des disciplines qu'elle enseigne à la Faculté de médecine de Toulouse. C'est une spécialiste des enjeux sociétaux, des nouvelles technologies du vivant, en grande partie grâce à ses connaissances qui sont à l'interface de la recherche, de ses applications médicales, des conditions éthiques et du droit qui règle ses applications. Et je la remercie beaucoup d'être parmi nous ce soir pour terminer ce colloque. Je vous en prie.
Merci infiniment et surtout merci pour cette invitation et merci à tous ceux qui ont encore le courage de rester dans la salle. Alors c'est un privilège d'intervenir en dernier, c'est parfois aussi une petite difficulté parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais finalement ce qui me rassure dans le fait qu'on ait déjà dit beaucoup de choses, c'est que nous avons tous les mêmes questions quelle que soit notre discipline. Et bien évidemment, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une biologiste, je suis une scientifique des sciences humaines et sociales. Et donc l'idée, c'est d'avoir peut-être un regard plus convergent, finalement, sur les questions qui se posent aujourd'hui. Et donc voilà, il va y avoir plein d'éléments, un certain nombre d'éléments que vous allez retrouver, mais que je vais donc essayer de résoudre, ou en tout cas d'amener en termes de discussion, sur le terrain du droit. Et j'essaierai de dire pourquoi le droit. Alors, comme on l'a dit, en fait, je vais aller un peu vite sur les premières diapositives, puisque les éléments de contexte, finalement, sont les mêmes pour nous tous, qui font que tout ce qui est thérapie à base de cellules souches, mais également recherche dans le domaine des cellules souches ou dans le domaine embryonnaire, c'est quelque chose qui se développe très rapidement, et alors les modèles embryonnaires en sont un parfait exemple, c'est-à-dire d'un dispositif qui s'est développé à une allure que l'on n'aurait probablement peut-être pas imaginée. Finalement, ce que ça crée dans la société, c'est deux choses. C'est d'une part beaucoup d'espoir, parce qu'on n'a pas... Alors, j'étais pas là ce matin, peut-être qu'on en a un petit peu plus parlé, mais c'est vrai qu'il y a quand même des ambitions cliniques. Monsieur Rivron en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a vraiment des ambitions cliniques à terme de pouvoir améliorer la condition médicale d'un certain nombre de personnes. On reviendra sur ça. Mais donc, ça crée quand même une forme d'espoir, l'utilisation de cellules souches embryonnaires, d'embryons. Mais ça crée aussi un espoir qui est peut-être un peu surdimensionné, et finalement le terme de révolution, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la littérature, que ça soit dans la littérature scientifique, biomédicale, mais également dans des revues un peu plus grand public. On est toujours quand même dans cette idée que les cellules souches vont faire ce que rien d'autre jusque-là n'a réussi à faire. Et donc vous le voyez, donc je reste sur le science et vie puisque je voulais pas mettre trop de choses en anglais, et s'il y en a quelques-unes, vous m'en excuserez. Mais on voit bien en fait que le message est un petit peu, en fait, je travaille beaucoup aussi dans le domaine de la génétique, un peu comparable à ce qu'on trouve dans le domaine de la génétique, c'est-à-dire si on arrive à trouver des choses dans ces domaines-là, on va arriver à soigner probablement toutes les maladies dans le futur. Et ça, j'ai envie de dire, malheureusement, ça interroge un certain nombre d'éléments. C'est en gros, est-ce qu'on est vraiment capable de le faire ? Donc les scientifiques aujourd'hui nous ont prouvé que oui, on est capable de faire beaucoup de choses. Mais finalement, est-ce que ce qu'on peut faire ou ce qu'on pourra faire demain, est-ce que la performance technologique, est-ce que c'est ce qu'on veut socialement ? Est-ce que c'est ce qu'on souhaite et est-ce que c'est ce qu'on désire pour notre société ? Et là, le droit a un rôle fondamental. J'en ferai ma conclusion. Le droit a un rôle fondamental, puisque le droit, finalement, va permettre de mettre des limites au progrès scientifique en fonction de ce qui est acceptablement, ce qui est acceptable, socialement. Et donc, ce n'est pas parce qu'on arrive à faire tout un tas de choses très nouvelles en science qu'elles sont toutes acceptables sur le plan social. Et là, alors, je ne suis pas une grande fan de Wikipédia, mais je trouve que cette image, elle reflète vraiment cette idée de « on va tout guérir, on va tout réussir grâce aux cellules souches et on va surtout... » On n'en a pas parlé, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais il y a vraiment aussi le mythe de la régénération, hein, de la médecine régénérative. Donc, il y a vraiment voilà, tout un tas d'éléments qui font qu'on construit un espoir dans la société qui n'est peut-être pas complètement la réalité par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine scientifique. Alors, je vais partir d'une image que mes collègues voudront bien excuser. Vous nous avez montré de très très belles images, je reviens à des choses extrêmement basiques. C'est-à-dire, en gros, voilà, quel est un peu le développement, mais comme on l'expliquerait, je pense à des élèves de 4e, ce qui est à peu près mon niveau, et encore. Dans ce développement, en fait, ce qui m'intéresse dans cette image, c'est que d'abord, elle correspond, on va dire, de manière grossière, bien sûr, au développement humain, mais que le droit, finalement, peut complètement se saisir, en fait, de ce développement. Pourquoi ? Parce que pour le droit, en fait, on va avoir trois grandes catégories qui sont régulées, du moins en droit français. Hein, je vais essentiellement parler du droit français ici. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui va se passer avant la naissance. On a une première catégorie où alors, le droit n'est pas capable de dire qu'est-ce qui est un embryon, qu'est-ce que c'est un fœtus, là, ça, bon, on ne sait pas trop. Enfin, on ne sait pas du tout d'ailleurs, enfin, on ne donne pas de définition. Mais en revanche, on va avoir un statut juridique pour toute cette période-là. Et puis, on va avoir un autre statut juridique dont on ne parlera pas, qui est celui qui va se passer au moment de la naissance, et notamment donc avec le recueil des cellules souches hématopoïétiques du cordon ombilical, où là aussi, en fait, on a des règles juridiques qui nous expliquent qu'est-ce qu'on a le droit de prélever, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Notamment, on n'a pas le droit en France de conserver ces échantillons biologiques dans des banques d'échantillons privées, ce qu'on a le droit de faire par ailleurs dans d'autres pays. Mais nous, en France, on n'a pas le droit. Et puis, on a les cellules, alors adultes, qui devraient reprendre également tout ce qui se passe entre le moment de la naissance et l'adulte, hein, donc ça comprend aussi les enfants, toutes ces cellules qui vont pouvoir être recueillies et pouvoir être transformées. La grande différence qu'on a entre tout ça... Alors, attendez, je pense que c'est ça. Oups, pardon. Je ne suis pas tout à fait douée. Hop, voilà. La différence qui se passe ici, entre ici... Et ici, et même ici, je dirais, c'est la question du consentement. Pour le droit, c'est que ici, bien évidemment, il n'y a pas de consentement de l'embryon. Ce qui va fonder, en fait, ce qu'on va pouvoir faire sur l'embryon, on l'a déjà entendu, c'est le projet parental. Ici, on a des mécanismes juridiques de représentation de l'enfant, donc ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui vont consentir ou ne pas consentir. Et puis ici, quand on est capable, c'est-à-dire quand on a la capacité juridique, eh bien évidemment, on sera capable de donner un consentement qui sera valide. Donc la question pour le droit, c'était de dire, dans cette période-là, enfin, pas entièrement cette période, mais dans cette période-là, finalement, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Et qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'on n'a pas de consentement qui est autonome, qu'on a juste la question du projet parental qui peut venir fonder ce que l'on va faire de cet embryon ? Est-ce qu'on peut faire de la recherche ? Est-ce qu'on ne peut pas faire de la recherche ? Et finalement, quel est le critère pour dire qu'on peut le faire ou qu'on ne peut pas le faire ? Donc ça, c'est des choses c'est des questions qui ont conduit au régime actuel que je présenterai tout à l'heure. Ce qu'on a bien compris dès le départ, c'est que quand même ici, si on faisait des choses sur l'embryon et qu'on allait par exemple prélever des cellules souches au 5e, au 6e, au 6e ou au 7e jour, on pensait bien que quand même on avait une possibilité... Enfin, que la conséquence de ça, c'était la destruction de l'embryon, sa non-réimplantation, et donc on revient à cette idée de question de personne humaine potentielle, sur laquelle je redirai quelques mots tout à l'heure. Donc on s'est dit quand même, ici, on sait qu'on peut faire techniquement des choses, on nous l'a montré aujourd'hui, mais on a quand même un certain nombre d'obstacles, qui sont des obstacles éthiques, juridiques, et qu'il va falloir surmonter. Bien évidemment, on a été, entre guillemets, un petit peu soulagé quand on a vu arriver ce nouveau type de cellules, donc les cellules iPS, qui ont permis finalement de reprogrammer des cellules adultes, donc données à un moment où le consentement pouvait lui-même être donné par un donneur, et que l'on pouvait reprogrammer pour lui donner certaines caractéristiques des cellules souches embryonnaires, en finalement permettant de répondre à ces enjeux éthiques et à ces enjeux juridiques de la destruction de la personne humaine, du consentement. Mais on retombe sur d'autres problématiques qui sont notamment le fait qu'on puisse les dériver en gamètes, et donc on retombe de nouveau en fait sur la problématique de l'embryon. Bon, donc on s'en sort un peu difficilement. Et puis les derniers en date, c'est bien évidemment donc les organoïdes, pour lesquels là le droit, ben on l'a vu, dit pas grand chose actuellement, en tout cas le droit français, mais où on voit que quand même ça s'agite. Donc dans le monde juridique, il y a énormément de discussions sur le statut de ces modèles embryonnaires, leur nom. Alors en droit, vous savez que nommer les choses, on appelle ça qualifier, c'est la première des opérations que va faire un juriste, c'est donner un nom, savoir si ça rentre dans une case, et si ça ne rentre pas dans une case, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc ces modèles embryonnaires, donc, quel que soit le nom, j'utiliserai moi aussi en modèle ou embryoïde, finalement, est-ce qu'aujourd'hui il rentre dans une catégorie du droit ou bien est-ce qu'il faut en créer une nouvelle ? Toujours donc dans ce contexte, je voulais évoquer aussi donc quelle est un petit peu la posture du législateur et ce face à quoi il doit arbitrer. Donc son arbitrage, il va reposer sur, en gros, on l'a dit tout à l'heure, les bénéfices. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en fait en utilisant ces différents types de cellules souches ? On peut en faire tout un tas de choses, en termes de biologie fondamentale, bien évidemment, d'études toxicologiques, on pourra, et on fait déjà, pour certains types de cellules souches, bien sûr, des essais cliniques. À terme, on peut imaginer des interventions sur l'homme, médicales, bien sûr, de la médecine régénératrice, des greffes. On peut aussi faire des produits de santé. Alors, faire un produit de santé et faire de la recherche sur un embryon, ce sont deux choses et deux stratégies complètement différentes qui, là aussi, tombent sous des régimes juridiques complètement différents. Puisque dans un cas, on est sur l'accompagnement de la recherche et de la recherche sur du matériel biologique et du matériel biologique humain, parfois. Donc c'est la grande problématique de cette qualification. Mais aussi, on peut en faire des produits de santé, c'est-à-dire des produits qui vont permettre de soigner des individus et d'être qualifiés notamment de thérapie innovante. Et là, on a tout en fait un régime juridique au niveau européen concernant les thérapies innovantes. Donc les promesses de ce cadre, ces usages, c'est d'avoir des nouveaux traitements, de potentiellement retarder la sévérité d'un certain nombre de pathologies, de réparer et de récupérer des fonctions. Ça, ce sont des promesses à très long terme. Mais c'est souvent ce qu'on voit apparaître dans les promesses, on va dire, des journaux grand public. Bien sûr qu'avant tout ça, il y a tout ce que nos collègues ont aujourd'hui décrit, qui sont le décryptage de mécanismes biologiques qui ne vont pas avoir une application là tout de suite demain, mais dont la connaissance est fondamentale pour arriver à cette promesse-là, qui est une promesse bien, bien plus appliquée. Et puis on a des craintes qui sont liées, c'est quoi les risques ? Comment on peut identifier les risques de l'usage en fait de ces nouveaux, de ce matériel biologique, de ces embryons, de ces modèles embryonnaires ? Et puis je dirais que si on fait un petit peu l'exégèse de tout ce qui a pu être écrit en droit autour de l'embryon en particulier et des cellules souches embryonnaires et des cellules souches en général, eh bien c'est vraiment la question de l'embryon qui tient le pavé haut. C'est-à-dire que c'est vraiment la question de la cellule souche embryonnaire et de l'embryon qui a infusé dans l'examen juridique du statut que devraient avoir ces cellules. Sauf que, je vais tenter de vous les montrer juste après, on ne peut pas complètement dire que c'est la même chose, une cellule IPS, une cellule souche embryonnaire et un embryon, y compris le droit, pour le droit. Donc, ce qui a fondé en fait la problématique, je dirais la stigmatisation autour des cellules souches embryonnaires, c'est tout d'abord on y a pu y avoir accès. Alors c'est un peu idiot à rappeler, mais tant qu'on ne savait pas faire de fécondation in vitro, qu'on ne savait pas isoler un embryon, ou en tout cas qu'on n'avait pas accès véritablement à ce matériel, cette recherche n'a pas pu se faire. Et finalement, ça s'est fait si on regarde de manière rétrospective par rapport à d'autres domaines de la biologie, c'est quand même plutôt récent. Ce sont des cellules qui sont immatures, dont on sait que l'on va pouvoir les utiliser grâce à des techniques de biotechnologie que l'on va pouvoir différencier. Et c'est finalement cette modification qui va avoir un intérêt pour le droit. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez discuté peut-être cet élément ce matin, mais en fait, pour le droit, ce qui va être fondamental, ça va être de dire jusqu'à quand l'élément que vous manipulez dans vos laboratoires peut être considéré comme qualifié d'humain. Jusqu'à quand peut-on considérer qu'une cellule, un modèle embryonnaire, est humain ? Et ça, pour nous, c'est excessivement difficile. Quand je dis nous, je parle des juristes, c'est super difficile, parce que même vous, vous nous avez expliqué qu'on est dans un continuum et que peut-être on ne sait pas véritablement situer à quel moment on peut dire que c'est humain ou que ça ne l'est plus. Alors, le droit de l'Union européenne nous donne quelques, quand même, indications, puisqu'ils se sont déjà quand même largement posé la question, et on nous dit que ce qui importe comme un des critères, c'est le degré de modification, le degré de manipulation. Et plus ce degré est élevé, et plus il ferait perdre sa qualité humaine à l'élément biologique, à la cellule souche. Et ça, c'est important parce que, en gros, je ne l'ai pas mentionné ici, mais peut-être c'est le moment, on a parlé de commercialisation. On commercialise des lignées cellulaires. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, si on peut commercialiser des éléments du corps, c'est bien qu'ils ont perdu leur qualité humaine, puisque on a quand même un principe assez universel qui fait qu'on ne peut pas vendre ces cellules, on ne peut pas vendre ces organes, et on ne peut pas leur donner on ne peut pas les évaluer en argent. Donc si à un moment donné on peut avoir une activité commerciale, y compris sur des modèles embryonnaires, c'est bien qu'ils ont perdu en fait leurs caractéristiques humaines. Donc pourquoi les utiliser ces problématiques ? Ben voilà, cette origine humaine, jusqu'à quand on doit la conserver ? Moi je ne sais pas non plus répondre à cette question exactement. Est-ce que le fait qu'on ne peut pas réimplanter un embryon, parce que d'abord c'est interdit, et qu'on va le détruire, est-ce que ça a un impact moral ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a le droit de faire ? Et c'est légitime de se poser cette question. Est-ce qu'on viole le droit à la vie ? Alors ça c'est un vieil argument, un serpent de mer, mais voilà, que je me dois quand même de vous présenter. Parce que, de toute façon, pour certains, c'est considéré comme immoral, quand même, de faire de la recherche sur l'embryon. Alors, pour essayer de comprendre, d'avoir quelques outils pour nous aider à réfléchir à toutes ces questions, on a deux grands cadres, et que je voudrais quand même bien distinguer aujourd'hui, même s'ils partagent énormément de caractéristiques communes. D'une part, on a l'éthique. L'éthique, c'est une réflexion, c'est aspirationnel. Et l'éthique, c'est ce vers quoi on doit tendre. Donc il n'y a rien d'obligatoire dans l'éthique, c'est vraiment délibératif et encore une fois aspirationnel, et ça repose sur les quatre grands principes qui sont à peu près universels là aussi, que sont le respect de l'autonomie, donc c'est l'information et le consentement, on en a déjà parlé, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Ça, c'est un premier cadre de réflexion qui peut nous aider à répondre à toutes ces questions et tous ces enjeux. Deuxième cadre, c'est le cadre juridique. Le cadre juridique, désolé de le rappeler, mais on ne le discute pas. Si on le discute, c'est au Parlement. Une fois que la loi est promulguée, elle est adoptée, la loi nous dit ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et concernant en tout cas le domaine de la bioéthique, en France, on vous l'a dit, on a une loi de bioéthique qui nous explique ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et bien évidemment, que dans cette loi, on a une posture qui est aussi morale. C'est-à-dire que le législateur va décider de choisir telle ou telle posture en fonction aussi des choix de société que nous faisons collectivement en France. Et concernant l'embryon, c'est pas un scoop, je le dis dès maintenant, mais nous en France on a une vision, mais dans d'autres pays du monde on a une vision qui est complètement différente. Donc on voit bien que c'est culturellement situé en fait, la bioéthique. Et quand c'est situé dans une loi, ben là, ça veut dire que c'est enfermé et ça devient obligatoire entre ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc on va voir deux grands points, très rapidement parce que y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. On va reparler de la nature ontologique des cellules souches. Je me permets de sourire parce que vraiment, je pense que pour le législateur, c'est ce qui pose le plus grand problème, c'est dire qu'est-ce que c'est. Bon, on a beaucoup de mal à le dire, donc bon, ça va aller vite. Et puis, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur le régime juridique de l'embryon et des cellules souches. La question a déjà été posée, juste précédemment, ben, qu'est-ce que c'est qu'un modèle embryonnaire? Qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? Qu'est-ce que c'est qu'un embryon? Est-ce que c'est une personne potentielle? Cette notion de potentialité, elle existe par endroit dans le droit, mais pas du tout dans le domaine de la bioéthique, dans le domaine plutôt des successions. Donc ça existe, cet artefact, de dire qu'on peut dire qu'une personne est une personne avant même qu'elle soit venue au monde. Il y a quelques éléments du droit qui permettent de le faire, mais pas dans le domaine de la bioéthique. Donc j'ai envie de dire, pour le droit, la seule question qui se pose vraiment, c'est: est-ce que tout ça, c'est une personne? Est-ce qu'on peut dire que c'est une personne? Et pourquoi on se pose cette question? Parce qu'en droit, finalement, tout le monde trouve ça très compliqué, mais je vais oser dire que c'est très simple. On a deux grandes catégories. En droit romain, en droit latin, ça n'existe, c'est très différent pour le droit de la common law, c'est-à-dire les pays qui ont un autre système juridique que le nôtre. On connaît que deux catégories, les choses et les personnes. Donc, si on est une chose, on ne peut être une chose inanimée, un bureau, un ordinateur, on peut être une chose animée, un animal, on peut être aussi un être doué de sensibilité, c'est aussi un animal. Donc on commence à avoir quelques catégories un peu intermédiaires. Et puis, une chose, on peut la vendre, on peut l'évaluer en argent, on peut la louer, on peut la détruire. Quand on est une personne, on est doté de ce qu'on appelle les droits de la personnalité, et au premier titre desquels, on va reconnaître notre dignité. Bien évidemment, on ne tue pas une personne, c'est interdit, c'est un crime, on ne peut pas louer, on ne peut pas l'évaluer en argent, etc. Donc c'est très schématique ce que j'ai dit, mais c'est vraiment pour montrer la différence entre ces deux grandes catégories. Pour en revenir à nos embryoïdes et nos modèles embryonnaires, de deux choses l'une. Soit ce sont des choses et on peut en faire à peu près ce qu'on veut, sous réserve d'éléments de sécurité, de respect d'un certain nombre de règles, aussi en termes d'autorisation de protocole ou d'évaluation de protocole. Soit ce sont des personnes, et à ce moment-là, on voit bien qu'on ne peut pas tout à fait faire la même chose. Et bien sûr qu'on n'a pas réussi à répondre à cette question concernant que ce soit les embryons, les cellules souches embryonnaires, les cellules souches iPS. On n'a pas dit que c'était l'un ou l'autre. On n'a rien dit d'ailleurs, parce qu'on ne les a pas qualifiés. En France, on n'a pas de définition juridique de l'embryon, donc comme ça au moins, on est tranquille. Enfin, tranquille, je ne sais pas si on est tranquille. On a depuis 2021, la nouvelle loi de bioéthique, une définition des cellules souches iPS, donc ces fameuses cellules souches qui peuvent être reprogrammées. On comprend bien que ce n'est pas les mêmes, parce qu'elles ne proviennent pas d'un embryon, d'accord ? Elles peuvent se différencier, mais on comprend bien là aussi qu'à aucun moment on va les réimplanter. En tout cas, ce n'est pas le but. Pour les modèles embryonnaires, la question qui va se poser, c'est: est-ce qu'on est dans les embryons qui ne sont pas définis, mais qui ont quand même un régime juridique? Est-ce qu'ils sont dans les IPS, ou est-ce qu'ils sont, comme le disait M. Guérin, dans une troisième voie? Donc ça, mystère, je pense qu'on le saura à la prochaine révision de la loi. Rien dans la loi, mais quand même quelques éléments par ailleurs. Premier élément de définition, le Conseil constitutionnel en 1994 a distingué le statut juridique de l'embryon in vitro et de l'embryon in vivo pour écarter en fait les principes du droit constitutionnel, que ces principes du droit constitutionnel ne s'appliquent pas in fine à l'embryon in vitro. Donc c'est lui donner une protection qui est moindre que celle de l'embryon in vivo. Donc déjà, on a une première idée de ce que ça pourrait être, d'accord ? Deuxième élément de définition, l'Union européenne, dans deux arrêts, a donné, là pour le coup, beaucoup plus d'éléments, à mon avis, de définition que nous n'en avons dans la loi française, et puis de toute façon, on n'en a pas dans la loi française. Premier arrêt, en 2011, on nous explique que constitue un embryon humain. Alors, je vous passe les détails. Tout ovule humain, dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d'une cellule humaine mature a été implanté, et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer. Alors, il faut quand même que je dise que moi, encore une fois, de mon point de vue de juriste, j'ai un peu de mal à comprendre toutes ces nuances, Mais donc il y a vraiment une volonté, je dirais, d'aligner le droit sur la biologie. Voilà, ça c'est vraiment le seul constat que je peux faire. J'ai toujours posé la question à mes amis biologistes, qu'est-ce que vous pensez de cette définition ? On m'en a jamais dit du mal, donc si vous voulez le faire, c'est maintenant. En revanche, le juge européen a laissé la porte ouverte en termes de définition pour les cellules souches embryonnaires humaines et a laissé la main en fait aux législations nationales. Il ne s'est pas prononcé sur cette question. La Cour a poursuivi en fait cet effort de définition à l'occasion en fait d'un autre arrêt de 2014. Où il y avait vraiment... En fait, les questions se posent toujours autour de la problématique de la brevetabilité. Je ne l'ai pas dit, mais les deux arrêts se situent dans le même champ juridique. Et là, on va définir en négatif, c'est-à-dire ce que n'est pas un embryon humain, et on va nous dire qu'un ovule humain non fécondé, qui par voie de parthénogenèse a été induit à se diviser et à se développer, ne constitue pas un embryon humain. Au sens de cette disposition, donc c'est toujours la disposition sur les brevets. Si à la lumière de des connaissances actuelles de la science, très important, donc ça veut dire définition évolutive, il ne dispose pas en tant que tel de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain. Et je pense que c'est ce dernier critère, là, cette capacité intrinsèque de se développer en un être humain, qui finalement fait son chemin, je dirais, dans les différentes études autour des modèles embryonnaires, justement pour essayer de donner le critère qui va faire que le modèle embryonnaire n'est pas un embryon. Donc ce critère-là fait son chemin. Et puis, donc Nicolas Riveron, que nous avons déjà tous cité, dans cet article, avec ses collègues, a essayé également... Alors, la définition a été traduite par DeepL, donc c'est pas moi qui ai fait la traduction, hein. Donc j'espère que ça correspond quand même à ce que vous vouliez dire, pour donner en fait une nouvelle définition juridique à l'embryon humain. Alors je le dis tout de suite, mais je le répéterai en conclusion, vous l'aurez compris, que ça soit du côté... Alors ce que j'apprécie, c'est que les scientifiques se saisissent de cette question, bien qu'il n'y ait pas que des scientifiques qui soient signataires de cet article, mais je trouve que c'est extrêmement important en fait que ça vienne du terrain et qu'il y ait aussi une définition commune, ou en tout cas qui puisse être commune entre les scientifiques et les juristes ou les personnes qui font de l'éthique. Là où ça m'a fait aussi penser à des définitions qu'on trouve dans d'autres directives européennes autour des cellules, de l'usage des cellules pour la greffe. Il y a déjà des choses de cet ordre-là qui se disent et enfin qui s'écrivent. Et donc voilà, ça fait sens. La question que je me pose en tant que juriste, c'est est-ce que c'est opérationnel dans le champ du droit ? Est-ce que c'est opérationnel si demain il y a des actions en justice et que le juge doive utiliser cette définition, ou même la définition de la Cour de justice de l'Union. Je ne mets pas le flash que sur cette définition. Il y a aussi... voilà. Donc, encore une fois, la question de la terminologie employée, voilà, est-ce que c'est le bon chemin à prendre ? Donc, vous l'aurez compris, on n'a que très peu d'éléments concernant en fait, la définition de l'embryon et sa définition ontologique. En revanche, on a beaucoup de choses concernant le régime juridique de ces cellules souches, et notamment en France. Donc, ce régime est issu de la loi de 2021, qui fait suite à une très longue évolution du régime juridique de la recherche sur l'embryon en France, qui a commencé en 1994, qui a connu quand même un événement majeur en 2013, avec une loi qui a modifié le statut de la recherche sur l'embryon, puisqu'on est passé en 2013 d'un régime d'interdiction à un régime d'autorisation. Donc on voit bien que cette loi a cheminé, et puis en 1994, je rappelle que la recherche sur l'embryon en France était interdite. Seules les études étaient autorisées. Donc études, ça voulait dire de ce qui se passe in vivo. En aucun cas, on avait le droit de faire de la recherche sur l'embryon. Donc finalement, en France, c'est autorisé que depuis 2004. C'est très récent. Donc on a une approche très conséquentialiste en France, c'est-à-dire qu'on va encadrer les usages. On ne dit pas ce que c'est l'embryon, on ne sait pas ce que c'est au niveau du droit, mais par contre, on va encadrer les usages. On a trois régimes juridiques qui ne se ressemblent pas complètement, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Embryon, cellule souche, embryonnaire et cellule IPS, avec deux interdictions, quoi qu'il arrive. Interdiction de créer des embryons pour la recherche. Ça nous vient du Conseil de l'Europe et de la signature de la Convention d'Oviedo. Donc, les pays signataires de cette convention se sont engagés à ne pas créer des embryons pour la recherche. Est-ce que ça doit être remis en cause ? Point d'interrogation. Et l'interdiction de réimplanter un embryon modifié, et ça a été réaffirmé très fortement dans la loi de 2021, notamment en raison de potentiels usages de CRISPR-Cas9, donc des ciseaux moléculaires et donc de l'édition du génome embryonnaire. Donc trois régimes juridiques, très rapidement, pour les embryons, comme on ne peut pas créer d'embryons pour la recherche, on ne peut utiliser que les embryons dits surnuméraires, c'est-à-dire conservés dans les centres de fécondation in vitro et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Donc vous l'aurez compris, ce qui fonde finalement l'usage et l'accès à cet embryon, c'est le projet parental. Il n'y a pas de dignité intrinsèque de l'embryon. Donc en fait, en tout cas, ça n'a jamais été clairement reconnu. Donc il faut obtenir le consentement du couple et... on sait en tout cas que pour les embryons, quand on parle d'embryons, il y a énormément, donc ça l'Agence de la biomédecine a fait un bilan, énormément d'embryons déjà encore conservés et qui ne sont pas utilisés. Il y a une vraie question éthique à ce sujet qui est de dire, il y a des parents qui ont, alors je me permets de faire juste une petite remarque, c'est les parents ne donnent pas un embryon. Et ça c'est très important parce que le législateur n'a jamais employé le mot « don » dans la législation, c'est pour expliquer un petit peu le malaise. C'est-à-dire, on met à disposition l'embryon, ou quand il est accueilli par un autre couple, on dit il est accueilli par un autre couple. Ça veut bien dire qu'on ne peut donner qu'une chose. Donc, comme l'embryon, il n'est pas complètement une chose et pas complètement une personne, on n'utilise pas le mot don, dans le droit en tout cas. Donc, les questions en fait sur ces embryons, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut en créer ? Est-ce qu'on peut les modifier ? Est-ce qu'on peut les réimplanter ? Et il y a donc une procédure bien connue, qui est celle de l'autorisation donc depuis 2013, donc devant l'Agence de la biomédecine, avec un certain nombre de conditions qui doivent être respectées, et également donc une ouverture depuis la loi de 2021 sur l'objectif que doit poursuivre cette recherche, qui n'est plus simplement la visée médicale, comme c'était le cas jusqu'en 2021, mais également la possibilité d'améliorer les connaissances biologiques qui manquent à NES. Et ça, c'était pour intégrer en fait la recherche sur l'édition du génome. Les cellules souches embryonnaires, donc là, on va dire, c'est là où le législateur a voulu vraiment alerter sur ce qu'on était en capacité de faire et ce qu'on n'était pas en capacité de faire. On voit que c'est le régime le plus strict, en fait. D'accord ? Pour les deux autres, cellules souches embryonnaires et cellules souches IPS, les régimes sont à peu près similaires, sont même complètement similaires. Et on estime que le risque est beaucoup moindre. Donc ça voudrait dire que déjà, en termes de statut même moral, il y aurait une différence entre l'embryon, les cellules souches embryonnaires, et les cellules souches IPS, puisque dans ces deux cas ici, en fait, on a simplement une déclaration devant l'Agence de la biomédecine, donc c'est un régime moins rigoureux que celui de l'autorisation, c'est plus souple, donc un simple régime de déclaration, mais quand même... Je tiens à dire que le législateur a voulu marquer le coup, si je peux le dire ainsi, en édictant de nouvelles sanctions pénales. Donc, c'est-à-dire que le non-respect de toutes ces conditions, comme celle-ci d'ailleurs, eh bien, si elles ne sont pas respectées, il peut y avoir des sanctions pénales qui seront prononcées contre les chercheurs, éventuellement contre les institutions. Ce qui va importer ici, en fait, le risque, c'est d'utiliser, et vous l'avez dit, il va y avoir un problème au niveau du consentement, enfin un problème, en tout cas il va falloir réfléchir à comment on va recueillir le consentement pour l'ensemble en fait de ces recherches. Ici en fait, ce dont on veut s'assurer, c'est qu'on ne va pas faire quelque chose que les parents n'auraient pas autorisé. Donc on veut s'inscrire dans le respect de la volonté des parents, qui n'est plus le projet parental, mais qui est la possibilité d'utiliser cet embryon pour de la recherche. Ici, bien évidemment qu'il faut le consentement, mais ce consentement, il est différent. Il est simplement parce qu'il est, pour le coup, dans le cadre du don. On veut surtout s'assurer qu'on va avoir un cadre en termes de sécurité, de stockage des données, de la biobanque, de l'usage des données qui seront associées, de comment on va échanger ces échantillons biologiques, comment on va les utiliser. Donc il y a des règles de sécurité qui sont très, très strictes et pour lesquelles il faudra respecter. Les modèles embryonnaires pour le droit, les questions qu'on va se poser, c'est un, est-ce que c'est une nouvelle catégorie ? Le législateur a déjà répondu, je vais vous expliquer pourquoi. Deux, est-ce que la réglementation actuelle octroie un cadre suffisant ? Ça, c'est peut-être ce qui a été plus discuté, je dirais, par l'avis du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine. Et à défaut, c'est-à-dire si on n'est pas dans un cadre suffisant, est-ce qu'il faut changer la loi ? Voilà les questions que le droit va se poser. Donc, pour essayer de savoir si un embryoïde est un embryon, une cellule souche embryonnaire, on va utiliser un certain nombre de critères qui peuvent être des plus biologiques jusqu'aux plus juridiques. On va faire la balance bénéfice-risque. Qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice ? Qu'est-ce que ça crée comme risque ? Et in fine, dans tout ce que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui, la conclusion est toujours la même. Donc, pour répondre à cette question, on va utiliser donc des critères, la balance bénéfice-risque, et in fine, on trouve toujours, mais il faut faire quelque chose. Un cadre juridique est nécessaire. Bon, alors, ok, donc on a compris qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'un cadre juridique était nécessaire. La question, c'est quoi ? Donc, en France, je vous le disais, on avait une réflexion donc, déjà qui avait été menée à l'INSERM au sein de son comité d'éthique. Et donc, dans la loi de 2021, alors très subrepticement, on s'intéresse beaucoup à qui propose des amendements. Quand on discute une loi, on va regarder qui propose des amendements, finalement, comment des nouvelles dispositions apparaissent dans le cadre de la loi qui est discutée au Parlement. Et là, ça a été une disposition qui a été rajoutée, comme ça, au décours d'une discussion et qui n'a pas été discutée. Et en fait, on a deux articles dans le Code de la santé publique qui nous expliquent que l'Agence de la biomédecine, en plus de ses compétences en matière de recevoir la déclaration ou recevoir les autorisations des protocoles de recherche, recevra, s'il s'agit de modèles embryonnaires issus de cellules souches, cellules souches elles-mêmes embryonnaires, il faudra faire une autorisation. Et s'il s'agit en fait de modèles embryonnaires issus de cellules IPS, il faudra passer par une demande de déclaration. Et donc, on a deux régimes aujourd'hui qui intègrent en fait les modèles embryonnaires dans une procédure. Et donc, on a réglé la problématique de l'ontologie, de qu'est-ce que c'est, par une approche procédurale. Moi, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, je dis simplement que c'est comme ça, en tout cas, qu'on a résolu la question en France. La question que se pose l'Agence de la biomédecine est assez logique, c'est finalement, est-ce que ça suffit d'avoir fait ça dans la loi de 2021, ou est-ce qu'il faut aller plus loin parce qu'il faut vraiment changer notre modèle juridique ? Ça doit faire l'objet en fait de recherches, on n'est pas capable de répondre là tout de suite. Il faut qu'on fasse un peu une analyse plus fine du cadre réglementaire. Donc, pour finir à l'étranger, comment ça se passe ? Ça s'agite aussi, beaucoup. on rappelle juste donc, qu'on a plusieurs... la recherche sur l'embryon, si on en revient en fait, à la question initiale, c'est est-ce qu'un modèle embryonnaire est un embryon ? Si on dit oui, il faut qu'on regarde un petit peu ce qui se passe sur la recherche sur l'embryon dans le monde. Et en fait, on a trois grandes catégories de pays. On a des pays qui, comme on l'a déjà dit, la terminologie a déjà été utilisée, qui sont permissifs, où on peut faire ce qu'on veut et de manière avec des conditions qui sont très allégées. On a des pays où on a des politiques qui sont plutôt flexibles, donc avec un certain nombre de conditions qui sont plus rigoureuses que la catégorie des permissifs. Et puis on a ceux pour lesquels on ne peut rien faire. On n'a pas le droit de faire de la recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires, ou les pays dans lesquels il n'y a pas de politique. Les pays dans lesquels il n'y a pas de politique, c'est un peu considéré comme des paradis bioéthiques, parce que finalement, si on n'a aucune politique, on peut potentiellement y faire ce qu'on veut. C'est le jaune, Donc je vous laisse en tirer les conclusions. Alors, juste une petite chose ici. Donc, vous voyez que quand même au niveau européen, ben, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Hein. On n'est pas harmonisé. Et donc, finalement, le fait d'avoir cette diversité, ça peut être vu comme une richesse. Mais concrètement, sur le terrain, c'est que les pratiques de recherche et de mise en œuvre en fait, de ces règles diffèrent d'un pays à l'autre. Donc, on n'est pas tous, et les chercheurs en tout cas, ne sont pas égaux face au droit quand on fait de la recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires. Et ça, ça crée donc des disparités entre les différents pays, y compris en Europe. Ce paysage, il est clairement donc fragmenté, avec, vous le voyez, donc quelques exemples, alors en sachant que tout ça peut évoluer hein, du jour au lendemain, mais on a une recherche qui est très réduite en Italie. J'aurais pu aussi parler de l'Allemagne, qui a un régime un peu hybride où on n'a pas le droit de faire de la recherche sur l'embryon, mais on a le droit d'importer des lignées cellulaires. Donc on a des régimes voilà, qui sont un peu à cheval entre le permissif et le restrictif. On a aussi donc, des pays comme la France ou le Royaume-Uni où on a des conditions qui doivent être respectées pour pouvoir faire de la recherche sur l'embryon, mais ces conditions ne sont pas les mêmes, hein, en fait. C'est ça qui change aussi, qui va créer en fait des disparités. On peut avoir voilà, des créations d'embryons, c'est autorisé aux États-Unis par exemple, et puis c'est interdit en France. Donc en fait, on a des pratiques qui sont très hétérogènes d'un pays à l'autre. Alors vous me direz, ben, comment on fait pour essayer de mettre tout le monde dans le même bateau ? La seule véritable initiative que je pourrais évoquer aujourd'hui, c'est cette évolution des directives tissus-cellules qui concernent plutôt les cellules, encore une fois dans le contexte de la greffe, qui vont faire l'objet d'un nouveau règlement par l'Union européenne qui s'appelle le règlement SOHO, alors SOHO pour Substance of Human Origins, qui dans une certaine mesure pourra s'appliquer aux cellules souches embryonnaires comme les précédentes directives. Alors, je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans le détail très technique de ce règlement, mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est un peu la seule piste que l'on a aujourd'hui. Alors, pourquoi on a ces différences ? Eh bien, parce qu'on a des valeurs culturelles qui sont très différentes, l'utilitarisme et les droits fondamentaux, et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la volonté politique de soutenir, ou pas, ce type de recherche. Et ça, c'est extrêmement important, parce que s'il n'y a pas de soutien politique, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de financement, et donc on ne peut pas le faire. Et en France, on est un peu entre deux. Et tout ça, donc, vous le voyez, ça a un impact sur l'harmonisation des pratiques et également sur les stratégies juridiques qui doivent obligatoirement être alignées sur le cadre scientifique. Alors, en Europe, on a quand même tout un consensus qui est en train d'émerger entre différentes institutions. Alors ici, vous avez une proposition actuellement discutée en Norvège. On a déjà parlé de l'Embryo Act et de son évolution imminente. Et également, donc, cette discussion est en cours au sein, vous le voyez, du Parlement Parlement britannique, pardon, avec un consensus quand même sur l'extension du délai de culture. Également sur l'adaptation de la réglementation, mais par contre il reste un flou en fait sur comment on le fait. On est d'accord sur le constat, mais comment on le fait, et tout ça va dépendre de comment on adopte cette législation. Pour finir, je voudrais vous signaler en fait la parution de ce rapport qui date d'il y a quelques semaines. Donc, qui a été fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Hybrida, qui est en train d'être terminé, qui est un projet européen sur les organoïdes. Les deux personnes que vous voyez là-bas, c'est d'une part un juriste, Jonathan Lewis, et Søren Holm, qui est un philosophe, et qui donc, eux aussi, ont rendu un rapport, à mon sens, très pertinent pour notre réflexion actuelle, autour de la régulation en fait, des modèles embryonnaires. Et comme vous le voyez, ils ont fait à peu près les mêmes constats que nous avons eus sur toute cette journée. C'est-à-dire qu'on on sait que ça va être utile sur le plan scientifique et médical. On sait qu'il y a un problème en fait, sur comment les réguler. Il faut réfléchir par rapport à comment on situe cette catégorie des modèles embryonnaires par rapport à l'embryon. Et quoi qu'il en soit, il nous faut une définition. Et là aussi, je dis merci à DeepL. Les enjeux qu'on n'a pas trop discuté aujourd'hui, et là vraiment je sais que j'ai plus le temps, sinon la cloche va sonner, c'est aussi ce qu'en pense le public. Et je crois que c'est un enjeu absolument fondamental. Ce débat, il ne doit pas rester parmi les experts. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est vraiment débattu par des experts. Ce débat, il doit redescendre, je dirais, un petit peu dans l'arène plus publique, pour essayer aussi de faire comprendre aux gens ce qu'on fait, bien faire comprendre les différences entre ces différents types de recherches et faire comprendre également quels en sont les enjeux. Et la confiance, eh bien, elle ne se décrète pas, elle se gagne. Donc je pense que nous, je m'inclus là-dedans, on est, ça y est, j'ai fini, pas de cloche. c'est que vraiment, on doit absolument communiquer, on doit absolument expliquer, on doit être transparent. Transparent sur ce qu'on est en capacité de faire aujourd'hui, sur ce qu'on sera en capacité de faire demain et pas donner de faux espoirs. On doit, alors ça c'est ma conclusion personnelle, je reste un peu vigilante sur la biologisation du droit. Donc le fait d'amener de la terminologie biologique dans le droit, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Je n'en sais rien. En sachant que la loi reste le meilleur des garde-fous et qu'il faut qu'elle soit intelligible et applicable. Et je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.